Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque jour par Perrine Suquet, avec Charlotte Méritant. C'est Philippe Duval qui est à la réalisation technique de notre émission, consacrée à la disparition de, il y a 19 ans, d'une jeune fille de un petit peu plus de 17 ans qui s'appelait Cécile Valin. J'ai rappelé en quelques mots, juste avant les infos, avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, cette disparition d'une lycéenne donc de 17 ans et demi qui vit avec sa mère à Saint-Jean-de-Maurienne, qui prépare le bac, qui a des ambitions professionnelles, qui veut devenir prof d'éducation physique, et puis elle part faire un tour à pied de quelques minutes, vraisemblablement vers 18h, le dimanche 8 juin 1997. Et depuis, on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Jonathan Oliver, son père, parce que Cécile vivait avec sa mère, Maryse et Jonathan, donc Maryse, la mère de Cécile et Jonathan, étaient séparés. Et Jonathan Oliver est mon invité parce que, au-delà de ce qu'on imagine, c'est-à-dire de la difficulté de vivre une enquête qui n'en finit pas et surtout une vérité qui n'aboutit pas pour l'instant, il va publier, d'ailleurs le livre va sortir demain et on vous remercie de nous en parler sur RTL aujourd'hui en avant-première, Jonathan Oliver. Vous venez de publier donc « Cécile, ma fille m'a disparu » aux éditions de l'Archipel. Bonjour.
Bonjour Jacques.
On s'était vu il y a un an, un petit peu plus d'un an, parce que régulièrement, et je pense que vous avez raison de le faire, au-delà de l'enquête judiciaire et policière, vous ne voulez pas que ce dossier se ferme, vous ne voulez pas qu'on oublie évidemment votre fille, et en parler dans les médias, c'est une manière d'abord de la conserver dans la mémoire de tout le monde, et dans la vôtre avant tout, hein, bien sûr. Vous avez hésité à faire ce livre ?
Excusez-moi ?
Vous avez hésité à écrire ce livre ? Ou il était nécessaire ?
Ah, pour moi, c'était très important. C'est pour pérenniser la situation de Cécile, l'histoire de Cécile. Et en même temps, je considère que c'était très important parce que je pense que ce livre peut être une pierre décisive dans les recherches, peut-être auprès de la justice, pour les convaincre de l'impérieuse nécessité de garder le dossier ouvert, et aussi pour que, enfin, quelqu'un qui sait, parle.
Et ça, vous en êtes, pardonnez-moi, vous en êtes, oui, persuadé depuis toujours. Vous pensez que quelqu'un détient une part, en tout cas, de la vérité.
Ah bah, j'en ai l'intime conviction. Cécile n'a pas disparu toute seule. C'était un enfant, comme vous l'avez dit dans votre introduction, joyeuse, intelligente, affectueuse, ni rebelle, ni déprimé. Personne n'a accrédité la thèse de suicide ni fugue. Rien dans son histoire lui prédisposait pour partir comme ça. Elle était seule, était seule, sans bagage.
Alors justement, on va revenir sur ces circonstances. Tout à l'heure, on rejoindra notre correspondant dans la région, donc Serge Pueyo, qui a suivi toute l'enquête pendant des mois et des mois. Nous aurons également tout à l'heure en ligne Maître Cathy Richard, votre avocate, qui se bat avec vous pour qu'on ne ferme pas le dossier et pour ne pas baisser les bras, finalement, parce qu'elle est aussi persuadée que vous que la vérité pourra un jour se manifester. Mais d'abord, je voudrais juste revenir sur ce week-end, ce fameux week-end du 7-8 mai, 1997. 7-8 juin, pardon. Vous êtes séparés, donc Cécile vit avec sa mère et avec son beau-père. Ce week-end-là, sa mère et son beau-père ne sont pas là. Et vous allez la voir au téléphone, Cécile, dans l'après-midi, je crois, dans la journée du dimanche, en tout cas.
Oui, c'est un peu après 17h, elle m'appelle, j'étais en Normandie, et je lui dis, alors Cécile, comment tu vas? Elle dit, bah, pas très bien, j'ai fait une fête à la maison, alors que c'était interdit, puisque...
Elle avait révisé le bac, quoi, en fait.
Elle révisait le bac, mais en même temps, l'appartement où elle vivait avec sa mère et son beau-père, qui était le proviseur du lycée de Saint-Jean-de-Maurienne, lui interdisait d'accueillir des camarades à la maison.
D'accord. Or, elle avait organisé un dîner avec des copains le samedi soir, je crois.
Oui. Donc, c'était une petite transgression. Et puis, je lui dis, bah, écoute, Cécile, est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce que vous avez fait des bêtises? Mais non, il n'y a fait rien. Mais est-ce que tu es obligée d'en parler? Puis, c'est une fille assez droite. Elle dit, ah oui, non, mais je ne peux pas ne pas en parler. Donc, j'ai dit, mais alors, écoutez, s'ils font des reproches, ta l'arme meilleure, c'est le silence. Ne réponds pas, d'autant plus que tu as le baccalauréat dans une semaine. Voilà, il faut que tu sois à l'aise pour continuer tes révisions.
Ça, c'est une conversation qui va durer un petit peu plus de 6 minutes.
Oui.
Je vais vous donner la durée exacte, parce qu'elle est dans le dossier, bien sûr, dans l'instruction. 6 minutes, 12 secondes. Oui. Vous allez dire au début, quand les enquêteurs vont vous demander est-ce que vous l'avez trouvé normal, naturel, vous allez dire qu'elle avait l'air bouleversée. Et dans le livre, vous précisez, en fait, c'est allé au-delà de votre pensée. Vous auriez dit plutôt inquiète et triste.
Oui. Elle, parce que... elle avait transgressé une consigne familiale et qui avait son logique aussi.
Mais c'était pas non plus l'affaire du siècle quand même. Ça pouvait déboucher sur une réprimande ou sur voilà. Mais pour parler clair, excusez-moi, mais c'est pas pour ça qu'on se suicide, quoi.
Ah, alors.
Et vous y avez bien sûr pensé.
Ah non. Oui. Personne. Personne n'y croit, ça.
Alors, il se trouve que, donc, vous avez cette conversation téléphonique vers 17h. On sait, par l'enquête, mais ça, on y viendra tout à l'heure, que aux alentours de 18h, elle va aller faire un tour. Ouais. À pied, en laissant la plupart de ses affaires.
Était sorti les mains vides.
Les mains vides. Et vous, quand même, ça vous trotte dans la tête, et vous allez appeler le domicile un petit peu plus tard, je ne sais pas à quelle heure.
Le lendemain, j'ai rappelé le lendemain.
Le lendemain, d'accord. Ouais. Et là, la mère de Cécile vous dit, mais quand on est rentré hier, elle n'était pas là.
Ah oui.
C'est comme ça que toute l'histoire commence pour vous. Et évidemment, tout le monde est inquiet, tous les proches, vous, votre ex-épouse, son beau-père, et on appelle les gendarmes, et ils vont prendre les choses à cœur assez rapidement. Hein, vous en parlez également dans le livre, c'est-à-dire ils mettent de gros moyens sur le terrain.
Ils n'ont pas mis les gros moyens, parce que... mais la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne, ils ont interviewé les proches de Cécile qui étaient présents pendant ce week-end. Mais le gros bataillon, vous savez, à l'époque, on disait un enfant de 17 ans qui disparaît, c'est forcément une fugue, donc on va attendre. Il y avait une carence de 3 jours.
Oui, voilà, il y a 40 000 disparitions par an, et 99,9% des enfants sont retrouvés. Quoi.
Oui.
Donc on ne s'affole pas dans les 3 premiers jours, vous avez raison de le préciser. On va faire une pause. Bien sûr, et là je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des questions, des réflexions à propos de l'histoire ou des témoignages, et Dieu sait si ils sont nécessaires dans une affaire qui est non élucidée, vous pouvez nous contacter bien sûr au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par courriel sur rtl.fr, et on se retrouve dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
L'invité de l'heure du crime cet après-midi, Jonathan Oliver, c'est le père de Cécile Valin, disparu, comme on l'a expliqué, l'a rappelé il y a un instant, le dimanche 8 juin 1997, une enquête qui est toujours en panne, mais un dossier qui n'est pas fermé, et un espoir évidemment que Jonathan Oliver partage avec son avocate qu'on aura dans un instant au téléphone, maître Cathy Richard, l'espoir que quelqu'un qui... doit savoir quelque chose, se décide enfin à le dire. Et Jonathan Oliver publie demain aux éditions L'Archipel ce livre « Cécile, ma fille, m'a disparu », une longue lettre à sa fille disparue, mais aussi l'occasion pour un père qui vit depuis 19 ans entre l'espoir qu'il se passe quelque chose et la peur d'apprendre ce qu'il n'ose pas imaginer. C'est très difficile, il raconte ses relations avec les juges d'instruction, parce qu'il s'en est succédé un certain nombre depuis 19 ans. Il y a un détective privé qui va vous aider à un moment, et on va en parler tout à l'heure, qui va d'ailleurs faire un travail assez remarquable. Il y a le contact avec d'autres parents d'autres enfants disparus. Il y a cette fameuse journée, on n'est pas loin, cette journée mondiale des disparitions au cours desquelles vous avez rencontré notamment l'association La Pève, etc. On va parler de tout ça, mais d'abord, on va revenir à cette période de juin 1997. Vous le disiez il y a un instant, les deux, trois premiers jours, on ne s'affole pas. Mais le temps passe, et on va entendre un premier document signé Serge Puyot, qu'on retrouvera ensuite en direct. C'est un document du 17 juin 1997. Donc je rappelle, Cécile est disparue le 8. Une information judiciaire à ce jour-là est ouverte pour enlèvement. Et sur place, on écoute le reportage de Serge Puyot. Écoutez.
Une croix rouge inscrite sur un platane à la sortie de la ville. C'est ainsi que les gendarmes ont matérialisé l'endroit où l'on a vu Cécile pour la dernière fois. Depuis, plus rien, pas le moindre indice, pas la moindre piste. Du coup, Karine, une de ses meilleures amies, envisage le pire.
L'enlèvement ou je sais pas. Pire peut-être, oui.
Elle devait passer le bac avec vous.
Oui. Je pense que c'est pas le bac qui lui faisait peur, ça c'est sûr. C'était important. Elle envisageait même d'aller sur Grenoble après. Elle voulait faire prof de gym, donc elle voulait continuer ses études alors. On est tous dans l'angoisse, sa famille, ses amis. Et vraiment, il faudrait qu'elle nous donne de ses nouvelles parce que ça va, on craque tous. Hein.
Et sur le répondeur familial, un message pathétique.
Allô, Cécile. Tu sais ce qui se passe, c'est pas grave. Pas grave du tout. On t'attend. Tu rentres quand tu veux. Tu nous laisses un message. Comme vous tous.
Serge Puyot, vous êtes en ligne, vous êtes notre correspondant dans la région. Et évidemment, cette affaire, vous l'avez toujours présente à l'esprit.
Bien sûr, c'est une affaire effectivement qui marque, parce qu'une jeune fille qui disparaît comme ça, qui se volatilise sans qu'on ait plus aucune trace, aucune nouvelle d'elle depuis effectivement ce 8 juin 1997, c'est peu courant. Et effectivement, ça marquait beaucoup de monde dans la région.
Alors, parlons des moyens, parce que autant les deux, trois premiers jours, on se dit elle va rentrer, c'est une fugue, autant après, les gendarmes prennent la chose, je crois, au sérieux. Il y a des moyens très importants qui sont développés sur le terrain.
Oui, c'est vrai que la gendarmerie, au départ, effectivement, a envisagé la thèse de la fugue, hein, pour une jeune fille de cet âge-là, peut-être un problème passager. Puis il y a eu de nombreux interrogatoires dans l'entourage de Cécile, et ils se sont aperçus, les enquêteurs, que c'était une jeune fille qui était équilibrée, gaie, qui n'avait pas vraiment de problème, aucun problème majeur. Et donc, à partir de là, on a pris l'affaire très au sérieux. On a mobilisé donc des gendarmes mobiles, l'armée même, pour venir effectivement quadriller cette vallée de la Maurienne, autour de Saint-Jean-de-Maurienne, pour essayer de retrouver des traces, des indices.
Il y a eu des hélicos, il y a eu plongeurs.
Des plongeurs qui ont sondé les lacs, les rivières qui passent à proximité, pensant peut-être aussi à un éventuel suicide. Tout a été fait effectivement avec des moyens de grande ampleur, avec effectivement un petit décalage par rapport au temps de la disparition, au jour de la disparition de Cécile, mais ensuite, de gros moyens ont été mobilisés par les autorités et la gendarmerie.
Alors, est-ce qu'on a trouvé dans ces premiers jours d'enquête ou dans ces premières semaines d'enquête, des témoins ? Est-ce que des gens ont vu Cécile ?
Alors, on a vu, des témoins ont vu Cécile marcher sur la route à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne, cette route qui mène à la Nationale. Elle paraissait triste, elle avait l'air un peu désemparée. Certains même disent qu'elle avait des larmes aux yeux, qu'elle avait des larmes sur le visage. Une personne qui la connaissait lui a parlé, elle n'a pas répondu, elle semblait un peu ailleurs.
C'était un professeur du lycée, je crois.
Exactement. Ouais. Voilà un comportement assez étrange de la part de Cécile, qui d'habitude était effectivement très avenante avec tout le monde, gaie. Visiblement, ce jour-là, quelque chose n'allait pas, elle était triste. Alors on a évoqué un petit incident qui s'était produit la veille lors de cette soirée qu'on a évoquée avec le père de Cécile. Il y avait eu cette soirée avec des amis donc dans l'appartement familial. Et lors de cette soirée, Cécile aurait flirté avec un garçon alors qu'elle avait déjà un petit ami. Voilà. Donc il y a eu cet épisode-là. Le lendemain, elle a rappelé une copine pour lui faire état de cet petit événement. Elle avait dit qu'elle n'avait pas été très fière sur le coup de ce comportement. Bon, mais rien de très grave a priori. Voilà, c'est les adolescentes qui, effectivement, draguent un petit peu, mais rien de grave. Quoi, voilà.
Mais donc, on est vraiment dans le bleu, quoi, si j'ose dire. Il n'y a pas beaucoup de témoignages. Les témoignages que vous avez évoqués.
Aucun témoignage direct sur une possible prise en charge de Cécile par quelqu'un qui conduisait un véhicule, parce qu'effectivement, les gendarmes ont tout de suite pensé à ça. Quelqu'un, effectivement, qui aurait vu Cécile le long de la route, l'aurait pris en stop, un conducteur, un camionneur, mais effectivement, aucun témoignage direct allant dans ce sens-là.
Alors, on vous retrouve tout à l'heure, Serge, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette affaire qui dure donc depuis 19 ans. Jonathan Oliver, je reviens vers vous parce que on l'a pas dit, mais dimanche, après ou avant cette conversation que Cécile a eue avec vous, elle a tenté, sans succès, de joindre sa demi-sœur, Chloé.
Oui.
Dont elle était très proche, hein, je crois. Elle a laissé un message. Qu'est-ce qui est passé, Chloé était injoignable.
Alors, à l'époque, Jacques, il n'y avait pratiquement pas de téléphone mobile. Donc, il a laissé un mot sur le téléphone fixe de Chloé, qui était bouleversé parce que, au moment de réceptionner le lendemain l'appel de Cécile, enfin le message, elle savait que Cécile avait disparu. Alors, Chloé.
Elle a appris entre-temps, oui, d'accord.
Et Chloé, 5 ans plus âgée, un peu la confidente de Cécile, très bonne entente entre ses deux sœurs. Elle a beaucoup souffert de ça, disant « Est-ce que j'aurais pu l'éviter ? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire ?» Enfin voilà, ça l'a beaucoup, beaucoup troublé, cette non-communication.
Ouais. Et on n'a pas d'explication sur ce qu'elle voulait dire, évidemment, à sa sœur. Mais bon, c'est vrai que, et vous revenez longuement sur tous les éléments qu'on a évoqués là à l'instant dans l'émission, c'est-à-dire il y a rien qui justifie, mais enfin c'est très difficile évidemment. Les suicides sont toujours des mystères, hein, bien sûr. Mais c'est une jeune fille qui n'avait pas fait de tentative auparavant,
non.
Et qui de l'avis de toutes ses camarades est quelqu'un de très positif. Quoi, en fait.
Oui. Personne ne crédite la thèse de suicide ni de fugue. Voilà.
Alors, elle était partie avec sa carte bancaire, hein, je crois. Elle avait sa carte bancaire, mais il n'y a pas eu de mouvement, ni sur le compte, ni de retrait d'argent. Donc, vraiment une enquête qui s'avère extrêmement difficile. On va faire une pause, une première pause. On se retrouve ensuite, et il y a eu des pistes quand même au cours de ces 19 ans. Donc, on ne va pas en parler chronologiquement, mais on va essayer de faire un peu ce que vous faites aussi dans le livre, c'est-à-dire le bilan des pistes possibles, celles qui ont été suivies puis abandonnées parce qu'elles ont été, comme disent les enquêteurs, fermées, mais peut-être d'autres pistes. Alors, ont-elles été suffisamment exploitées ou pas ? Y en a-t-il d'autres ? Le rôle de ce détective privé, on parle de tout cela dans un instant, et nous prendrons Maître Cathy Richard tout de suite après la fin de cette pause.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Les invités de l'heure du crime, Jonathan Oliver pour son livre qui paraît donc demain aux éditions de l'Archipel, Cécile, ma fille m'a disparu, qui est à la fois une longue lettre à la mémoire de sa fille, et puis aussi l'occasion pour ce père ballotté entre l'espoir de trouver la vérité et l'inquiétude d'un jour d'avoir aussi des preuves d'un drame qui s'interroge aussi sur qui, vous l'avez entendu, vous êtes d'origine britannique. Vous avez découvert finalement à travers tout ça la justice française également. Bon, et ça, on va en reparler dans un instant, mais je voudrais aussi que on prenne tout de suite en ligne Maître Cathy Richard, votre avocate. Bonjour, Maître.
Bonjour, Jacques.
Alors, On voulait absolument que vous soyez là aussi, parce que d'abord vous accompagnez ce combat, vous l'avez accompagné d'abord avec Chloé, puis avec Jonathan. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'état du dossier aujourd'hui, maître ?
Alors, Jonathan disait tout à l'heure, il y a une impérieuse nécessité de laisser ce dossier ouvert. Mmh. Cela étant, un dossier dans lequel il ne se passe rien ne peut pas, en droit français, rester ouvert. Et il faut absolument, nous nous battons depuis des années pour trouver des choses à faire, des choses à vérifier, d'accord, pour remettre sur le métier notre ouvrage, mmh, afin que ce dossier ne soit pas fermé. Alors, depuis des années, il s'est passé des choses. Et on a, d'ailleurs, Jonathan parle dans son livre, hein, mmh, on a évoqué Fourniret, on a vérifié la construction de l'autoroute, on a allé sonder l'autoroute, oui, qui était en construction à cette époque.
Absolument.
Et je me souviens d'ailleurs.
On a fait un parallèle également avec l'affaire des disparus de l'Isère.
Oui, aussi.
Voilà. Et puis, on va en profiter, maître, tout de suite, peut-être, pour revoir ensemble les pistes, certaines pistes qui ont été évoquées. Moi, j'ai noté au fil du livre de Jonathan, une Peugeot 205 rouge immatriculée en Italie. C'était une, oui, piste sérieuse ?
C'est une des nombreuses pistes. C'est-à-dire, mmh, c'est une piste qui n'a pas pu ensuite... c'est une porte qu'on n'a pas pu fermer.
Mais pourquoi on s'est intéressé à cette voiture ? Elle a été signalée par un témoin ?
C'est une des voitures qui avait été signalée par un témoin, mmh, au moment des faits. Mais vous savez, les enquêteurs s'étaient même rendus à l'heure de sa disparition, à l'heure, mmh, imaginée de sa disparition, c'est-à-dire, ouais, à partir du moment où on ne la voit plus, ouais, pour vérifier les gens qui passaient, ouais, à cet, sûr, endroit-là. Enfin, mmh. Donc effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les enquêteurs, ouais, ont beaucoup travaillé, mais, ouais, il reste des choses à faire. C'est, mmh, ça qui est important. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas pour ça qu'on se suicide. Mais il faut savoir une chose, c'est que, par exemple, on n'évoque pas le suicide, notamment parce que, de toute façon, on n'a jamais retrouvé le corps de Cécile. Mmh. Et un suicide, a priori, on retrouve un corps. Absolument. Cependant, il reste encore à vérifier les gens qui ont été enterrés, les personnes, les corps enterrés, ce qu'on appelle sous X.
Ah oui, des corps, des inconnus que l'on trouve donc sans papier, dont on ne connaît pas l'identité.
Donc voilà.
Et un certain nombre d'avocats dont vous êtes, évidemment, se battent pour qu'il y ait systématiquement un prélèvement d'ADN.
Prélèvement ADN, voilà, tout à fait.
Et qu'on puisse le comparer avec le fichier automatique, automatisé.
Le FNAEG.
Le FNAEG, hein, c'est ça, dans, oui, lequel se trouve l'ADN de Cécile.
Oui, on a pu mettre l'ADN de Cécile car assez rapidement, on a eu sa brosse, donc on sait que l'ADN de Cécile est dans le FNAEG. Maintenant, à l'époque, vraiment, les ADN n'étaient pas prélevés sur les intérêts sous X, donc il reste ça. Là, la juge d'instruction attend, que j'ai vu il y a peu de temps, elle attend d'abord beaucoup de ce livre. Les gens qui liront ce livre parleront de ce livre autour d'eux. Il y a peut-être quelque chose dans ce livre qui fera tilt. Mmh. Donc c'est la première chose pour laquelle la juge d'instruction, oui, a accepté de ne pas fermer le dossier. D'accord. À l'époque où, une des nombreuses fois, on nous a dit, il n'y a plus rien à faire. Alors on a dit, on va écrire ce livre. Mmh. Dans ce livre, dans lequel, entre guillemets, on viole le secret de l'instruction avec l'autorisation de la juge d'instruction. C'est-à-dire, on dit ce qui a été fait.
Oui, bien,
c'était
sûr.
Ça, il a fallu attendre, parce que tant qu'il y avait des pistes en cours, mmh, il n'était pas question de mettre la,
sûr,
puce à l'oreille de qui que ce soit.
Bien,
donc,
sûr,
ce livre, enfin, sort. Mmh. Et on attend beaucoup de lui.
Oui.
Et puis, si jamais ensuite, il restera encore, et ça, c'est la dernière chose dont j'ai parlé avec la juge d'instruction récemment, cette possibilité de vérifier les personnes qui ont été enterrées sous X, quels éléments on a sur ces X à l'époque de la disparition de Cécile.
Oui, retrouvés dans la région de l'Isère, quoi, en fait.
Oui, l'idée, c'est de partir en escargot et puis de ratisser de plus en plus large.
Oui. Alors, il y a aussi, maître, et en vous écoutant, ce passage du livre de Jonathan Oliver me revient en mémoire. Vous avez un moment signalé au juge ou à la juge, parce que je ne sais plus, parce qu'il y a eu une succession de juges qui sont occupés de l'affaire, mais une histoire très particulière, un médecin décédé. Donc vous donnez dans le livre les initiales et chez qui on a retrouvé dans ses affaires un dossier,
oui,
Cécile, si j'ose dire,
oui,
avec des coupures de presse, enfin beaucoup de choses, plus de choses qu'on ne trouverait même chez quelqu'un qui s'intéresse simplement aux faits divers.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Ben, ça a été effectivement un médecin décédé. Et quand on a... Enfin, sa famille a retrouvé chez lui des articles, enfin, plein de choses qui étaient relatifs à la disparition de Cécile. Ça a posé une grosse question parce que finalement, on n'avait aucun moyen de relier ce médecin à Cécile. Mais ça a été encore une porte fermée. Et parce que finalement, on n'avait aucun élément, on n'a eu ensuite aucun élément pour le relier à la disparition de Cécile, et puis parce qu'effectivement, il était décédé. Ouais.
Alors, maître, on va vous retrouver tout à l'heure. Là, on va faire une pause tout de suite. On va parler de ces recherches au géoradar en 2008. On va parler aussi avec Jonathan de ces relations dont il parle avec les différents juges d'instruction, dont certains n'ont pas été très délicats, hein, en jugé par ce qui est dit dans le livre. On va parler aussi de cet enquêteur privé qui a... Il semble avoir fait un travail vraiment très important. À tout de suite.
D'autres juges ont été remarquables. Hein.
Bien sûr, oui, non, mais il y a...
certains n'ont pas été délicats, certains ont quasiment
absolument
pas regardé le dossier.
Absolument.
Et d'autres ont été remarquables d'investissement.
Absolument. À tout à l'heure, maître.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
L'invité de l'heure du crime, Jonathan Oliver, pour son livre qui paraît demain aux éditions de l'Archipel, Cécile, ma fille, m'a disparu, un livre à lire parce que c'est d'abord un document vécu de l'intérieur, évidemment, par un homme qui espère quasiment à chaque minute pendant 19 ans qu'il va se passer quelque chose dans le dossier de sa fille disparue. C'est aussi un livre qui est, maître Katie Richard le rappelait il y a un instant, très complet sur les pistes qui ont été suivi donc avec l'accord de la juge d'instruction actuelle qui espère peut-être qu'en lisant ce livre des personnes pourraient retrouver la mémoire ou se rendre compte qu'ils possèdent peut-être une information qu'ils n'ont pas jugée importante jusqu'à présent. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait maître Katie Richard, Jonathan Oliver?
Oui, autant le livre peut jouer un rôle très important, voire déterminant. Il y a autre chose. C'est la qualité de Katie Richard, grand avocat, grand cœur. Si elle n'avait pas pris en charge ce dossier, ça fait des années que ça aurait été fermé. Donc, je voulais profiter, Katie, de cette émission pour te remercier publiquement pour tout ce que tu as fait pour ce dossier. Et elle a même dit, jusqu'à ma retraite, je serai dedans. Cathy, il ne faut pas qu'on attende de ça. Il faut qu'on trouve les réponses avant.
C'est un clou dans mon cœur aussi, ce dossier. C'est un clou dans mon cœur. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai rien.
On a bien compris.
Quelqu'un sait.
Ouais. Un mot, parce que je l'ai évoqué, donc il y a des juges d'instruction formidables et la juge en charge de l'affaire actuellement est complètement dans la même demande que vous, de volonté que vous, d'aboutir à la vérité. Le premier juge d'instruction, vous avez attendu 18 mois pour 8 mois ou je sais plus, quelques mois.
Plusieurs mois.
Oui, plusieurs mois. Et finalement, comme vous n'avez pas vu, hein, alors vous, certes, vous habitez en Normandie, vous n'êtes pas à Saint-Jean-de-Maurienne, mais enfin, bref, vous n'avez pas de contact avec le juge d'instruction, vous finissez par solliciter un rendez-vous qu'il vous accorde. Et le premier mot que vous dit cet homme, c'est « Est-ce que vous avez quelque chose à m'indiquer comme piste ?» Et ça vous révolte, quoi. Vous dites « C'est son métier, finalement, de chercher des pistes.
» Moi, je m'attendais à voir quelqu'un qui prenait fait et cause pour le dossier de Cécile, me disant peut-être s'il n'a pas pu me voir avant, il était tellement occupé avec ce dossier. Et en fait, j'avoue ma grande déception. Voilà, il attendait de moi pour qu'il lui donnerait des pistes. Je n'en avais pas de pistes à lui donner, en fait.
Bien sûr.
Et quand j'ai protesté, il m'a dit, vous savez, monsieur,
j'ai beaucoup
de travail. Alors, c'est très dur d'entendre ça.
Ouais,
non pas sûr qu'il avait tort, mais dire ça à quelqu'un qui vient de perdre un enfant mineur.
Ouais.
C'était très dur.
Pour le moins, un manque de tact. Mmh. Alors, il y a eu beaucoup de choses dans l'enquête. Là, je reviens vers Serge Puyot, qui est toujours en ligne. En 2008, la gendarmerie nationale, et notamment l'IRCGN, hein, les experts de la gendarmerie, ont une nouvelle technique qui permet de... on va aller vite, hein, de voir à travers le sol un géoradar. Et à ce moment-là, ils vont amener ce géoradar, Serge Puyot, dans la région, au bord d'une autoroute. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors voilà, effectivement, cette autoroute, c'est l'A43. Et en juin 1997, donc lors de la disparition de Cécile Valin, eh bien, cette autoroute était en construction, en chantier. Donc il y a eu des gros travaux de terrassement pour la réalisation de cette autoroute. Et les gendarmes se sont dit que peut-être le corps de Cécile, qui aurait pu être victime donc d'un homicide, aurait pu être caché dans les gravats de cette autoroute avant qu'elle soit totalement terminée. Oui. Et donc, bien sûr, il était impossible de creuser l'autoroute. Hein, vous l'imaginez, elle était en service en 2008 ensuite. Et donc, ils ont utilisé, les gendarmes, ce géoradar. C'est un dispositif équipé d'antennes qui émettent des ondes électromagnétiques capables de détecter jusqu'à près de 2 mètres de profondeur des anomalies dans le sol. Mmh. Et donc, grâce à ce dispositif, c'est comme une grosse poussette avec 3 roues qui poussent donc ce dispositif électronique. Ouais. Mmh. Ils sont allés sur les bas-côtés de l'autoroute, sur l'autoroute, pour essayer de déterminer s'il n'y avait pas effectivement un corps, en l'occurrence celui de Cécile, caché dans l'autoroute. Les recherches ont duré plusieurs jours. Malheureusement, elles n'ont donné aucun résultat.
Oui. Maître Cathy Richard, je vous entendais réagir.
Oui. J'ai un souvenir très précis de ce jour-là, parce qu'avec Jonathan, nous y sommes allés. Et je me souviens de Jonathan dans le train, à qui je demande, et si on la retrouve, est-ce que ce serait un soulagement? Et c'était terrible, parce qu'on se regardait tous les deux, et à la fois, on ne pouvait pas s'empêcher d'espérer enfin de savoir, et à la fois, c'était aussi quelque chose d'insupportable, surtout pour Jonathan, de se dire, voilà, mais quelle vie, celle d'un père qui en vient presque à souhaiter qu'on retrouve sa fille décédée. Enfin, c'est toute l'horreur de
de la situation, absolument. Alors, il y a dans toute cette affaire une raison, Jonathan Oliver, il faut la rappeler. Pourquoi on pense qu'elle a pu être, si elle avait été assassinée, ou si on avait voulu dissimuler son corps, au bord de cette autoroute, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il y avait, à l'époque de la construction, beaucoup d'étrangers à la région. Je ne parle pas d'étrangers au sens d'étrangers, mais d'étrangers à la région, qui construisait cette autoroute.
Et il y avait beaucoup qui travaillaient au noir.
Et qui vivaient là, en fait. Donc, la possibilité d'une mauvaise rencontre. Ça a été une piste, évidemment, une hypothèse, en tout cas.
Une piste très, très logique. D'ailleurs, quand Serge a dit « malheureusement, on n'a pas trouvé », malheureusement, heureusement, on n'a pas trouvé Cécile, et peut-être on trouverait autre chose après. Mais c'était très très bien du juge de l'époque, la juge Gerhards, qui a pris l'initiative de faire ces recherches en géoradar. Mmh. C'était vraiment une excellente initiative. Ça fait des
Elle
années
a fait partie des juges engagés. Elle a fait partie, il faut bien le dire, des juges engagés dans la recherche de
Cécile. Oui. Bien, on va faire une dernière pause dans l'émission. On se retrouve ensemble après, parce que il y a encore un élément que j'ai découvert dans le livre de Jonathan Oliver. C'est ce coup de fil étrange reçu par la mère de Cécile. Un témoignage sur lequel nous allons revenir dans un petit instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
C'est la dernière partie de cette émission consacrée à la disparition de Cécile Valin, à l'occasion de la parution demain aux éditions de l'Archipel du livre de son père, Jonathan Oliver, « Cécile, ma fille m'a disparu ». Il y a beaucoup d'espoir, vous l'avez compris, pour peut-être que des émissions, ce livre puisse déclencher enfin, après 19 ans, des informations quoi, qui pourraient permettre d'aboutir à la vérité. Alors, il y a ce coup de fil étrange, Jonathan Oliver, reçu par la mère de Cécile, un homme. Elle pense être en contact téléphonique avec le curé de Saint-Jean de Maurienne. Et elle en parle, évidemment. On va voir cet homme. Et cet homme, ce prêtre, dit « Mais absolument pas, je ne connais pas cette femme, je n'ai jamais appelé. » Il y a même une confrontation où il nie farouchement les choses. Et puis, quelques mois plus tard, on apprend que cet homme est en prison pour ce prêtre, pour pédophilie, pour des actes de pédophilie. Mais il va y avoir un coup de théâtre.
Oui, le coup de théâtre, c'est qu'il y a un homme qui a dit, plusieurs années après la disparition de Cécile, qu'il était en voiture quand il a vu Cécile au bord de la route. Il trouvait qu'elle avait l'air triste, mais il n'a pas pu faire demi-tour pour la voir. Mais il aurait informé sa maman que, sans doute, elle s'était suicidée. Simplement, il avait dit ça quelques années après.
Quatre ans après, oui.
Et c'est grâce au détective privé qui travaillait sur le dossier à l'époque, un grand travail de Yves Conversano, qu'il a trouvé que cet homme-là, donc c'était un autre curé, a détenu un permis de port d'armes et avait une camionnette bâchée. Donc, l'équipement parfait si on voulait subtiliser quelqu'un. Mais, en tout état de cause...
Mais alors, pourquoi en parler,
hein? C'est-à-dire qu'en 2007, cet homme est décédé. Donc,
On ne saura pas si cette piste pouvait être ou pas la piste d'un tueur, quoi, en fait. Ouais.
Oui, c'est dommage qu'on ait attendu le témoignage un peu tardif de... Ouais. Yves Conversano, ça aurait été dévoilé plus tôt, on aurait pu aller plus loin, beaucoup plus vite, et peut-être démasquer le responsable. Peut-être.
Peut-être. Alors évidemment, il y a eu, vous l'évoquez aussi dans le livre, des tas de gens de bonne foi, des radiesthésistes notamment, qui localisaient. On a vu aussi Cécile un peu partout en Europe. Enfin, vous êtes même allé...
En Égypte.
Jusqu'en Égypte, effectivement, avec la piste d'une quelqu'un qui reconnaît une monitrice de plongée. Des fausses pistes, évidemment, certainement amorcées avec beaucoup de bonne foi, hein, de la part de ce...
Alors, tout ce qui concerne le témoignage de radiesthésiste, dès l'instant où il ne demande pas de l'argent, ce n'est pas de l'escroquerie.
Oui, absolument.
De là à les croire, personnellement, j'en reviens, parce que tous les témoignages très très détaillés, elles se situent là, devant l'église, dans une promontoire.
Et non.
Oui. Alors, par rapport à ça, ce que j'ai fait, ce que je conseille à toute autre personne, devant une situation qui peut être angoissante possible, c'est de ne pas aller chercher l'individu, mais c'est de vérifier les propos du radiesthésiste pour ne pas être trop...
Atteint par voilà, parce que c'est émotionnellement, c'est terrible.
Oui, il faut se protéger dans un cas comme ça.
Je vous remercie beaucoup, Jonathan Oliver. Cathy Richard, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais on a compris en tout cas que vous resterez, comme Jonathan, extrêmement, et comme la juge d'instruction, extrêmement combative, et que vous espérez que quelqu'un apporte une information, quoi.
Hein. C'est sûr, quel que soit ce qui a pu arriver à Cécile, il lui est arrivé quelque chose. Mmh. Et quelque part, quelqu'un sait forcément, soit consciemment, soit inconsciemment. Mmh. Et nous attendons encore beaucoup de la publication de ce livre et de la lecture de ce livre. Il faut parler de Cécile. C'est en parlant de Cécile, et merci de nous inviter pour ça, Jacques Pradel, c'est en parlant de Cécile qu'un jour, on la trouvera.
Je voudrais retourner quelques secondes pour dire au revoir à Serge Puyot, qui a suivi l'affaire pour RTL, comme on l'a entendu tout à l'heure à travers les documents, et puis ce qu'il nous a dit sur la suite de l'enquête. Il y a un élément sur lequel vous vouliez aussi simplement insister, c'est la situation géographique de Saint-Jean-de-Maurienne.
Oui. Saint-Jean-de-Maurienne se situe à peine 50 km de l'Italie, et les enquêteurs ont envisagé également que Cécile ait été, entre guillemets, embarquée par un rouleau routier qui a gagné l'Italie, soit un routier italien, soit un routier étranger qui ait pu franchir la frontière donc avec Cécile pour gagner l'Italie et ensuite malheureusement effectivement agresser la jeune fille.
Je vous remercie beaucoup Serge Puyot. On n'a pas dit Jonathan Iver, mais il y a eu aussi beaucoup de photos de Cécile qui ont été affichées sur Internet également, sur les documents de la PEV. Il y a une photo vieillie qui existe aussi. Et donc, tout ça fait que ça fait partie de l'espoir que vous avez, évidemment, d'arriver à la vérité.
Oui. Il est temps que cette histoire aboutisse, Jacques, et peut-être avec votre concours et d'autres, le livre, le juge, l'avocate, on est bien placé pour aboutir. Voilà, c'est mon plus grand espoir.
Le livre paraît donc demain aux éditions de l'Archipel. Cécile, ma fille, m'a disparu sous la plume de Jonathan Oliver, qui était mon invité. L'émission est terminée. On se retrouve dans quelques instants.